France Culture.
Question d'islam par Al Bunshir. Aujourd'hui, nous parlons de la fin des temps, du temps de la fin, de l'eschatologie, d'une manière générale, mais particulièrement aussi dans l'œuvre de Fritjof Schuon, ce métaphysicien, artiste, peintre, poète, maître spirituel aussi, avec le professeur Patrick Claude. Patrick Claude, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Merci infiniment de nous donner de votre temps, de venir nous parler à la fois de l'homme, de son œuvre. Vous êtes professeur d'études religieuses à l'université Georgetown depuis 1991 et vous êtes détaché au pôle universitaire de Doha au Qatar depuis 2006 pour enseigner justement ces études religieuses. Et vous êtes un fin connaisseur de Fritjof Schuon. Qui est-il au juste ?
Je dirais que Fritjof Schuon, c'est un homme de connaissance avant tout, de connaissance spirituelle. Et c'est donc essentiellement un métaphysicien. Un métaphysicien, c'est-à-dire un homme qui place au centre de son existence le discernement entre, disons, l'absolu, la réalité absolue, la réalité divine, d'une part, et tout ce qui relève du relatif, tout ce qui relève de l'existence terrestre, mais pas seulement de l'existence terrestre elle-même. Donc c'est avant tout un métaphysicien et un gnostique, c'est-à-dire une métaphysique qui est vécue, qui est assimilée, qui est intériorisée, pas seulement une métaphysique mentale ou abstraite en quelque sorte. Et à partir de ce, ou en relation plutôt avec ce statut, si j'ose dire, de métaphysicien et de gnostique, il y a évidemment aussi l'écrivain, c'est-à-dire l'écrivain qui explicite la métaphysique, la doctrine métaphysique, mais aussi qu'il exprime par les arts, comme vous l'avez mentionné, notamment par la peinture, puisque Schuon était un peintre extrêmement doué, et aussi un poète.
Qui compose uniquement en allemand ?
Alors, qui compose quasiment, la plus grande partie de son œuvre poétique, en fait, a émergé à la fin, dans les dernières années de sa vie, en 10 volumes, une véritable inspiration, comme un diwan, en quelque sorte, dans sa langue maternelle, qui était l'allemand, effectivement. Mais il a écrit également un petit recueil de poèmes en anglais, puisqu'il vécut aux États-Unis, et donc il voulait partager avec ses proches sa perspective aussi en langue anglaise.
Donnons, si vous voulez bien, Patrick Claude, sa trajectoire de vie et les dates qui ponctuent sa naissance et sa mort. Il est né un 18 juin, on n'oublie pas cette date, ici oui. En France, oui. 1907, et puis il est décédé un 5 mai 1998.
Oui.
Ça, aux États-Unis, alors que sa naissance était à Bâle.
Oui, exactement, donc presque près d'un siècle, en quelque sorte. Il a vu, évidemment, beaucoup de modifications dans le monde, mais d'une certaine façon, ça n'a pas du tout affecté son œuvre, ni son message, si je puis dire. Mais il a été essentiellement formé dans une culture protestante, je dirais biblique plus exactement.
Hein. Bien qu'il fût né catholique.
Non, et alors il s'est converti au catholicisme dans sa jeunesse, mais il est né effectivement protestant. Il est né à Bâle, mais son père, qui était aussi un artiste, avait possédé dans sa bibliothèque toutes sortes d'œuvres religieuses. Il y avait la Bible évidemment, mais il y avait aussi le Coran, il y avait aussi la Bhagavad Gita, il y avait les grands classiques de la spiritualité universelle. Donc dès son jeune âge, il a été ouvert en quelque sorte à la dimension universelle, par-delà le christianisme biblique, si j'ose dire. Il s'est converti au catholicisme par amour essentiellement de la liturgie, hein, et aussi bien sûr de la tradition théologique. Et puis, plus tard, il a découvert le soufisme, il est allé en Algérie, il est devenu le disciple du Cheikh Ahmed Al-Halawi, et il a lui-même fondé une une branche, en quelque sorte, de cet ordre. Mais il a toujours tenu à rester, en quelque sorte, à distance, si j'ose dire, d'une identification formelle avec l'islam, n'est-ce pas ? Parce que son statut, c'est ce statut d'un sage, d'une certaine façon, au-delà des formes, un sage universel, bien sûr, devait vivre sa vie dans un cadre traditionnel particulier, qui était celui de l'islam, mais qui, en même temps, dépassait, si j'ose dire, les limitations confessionnelles.
Nous avons eu l'occasion de le dire à cette antenne que pour certains, et peut-être pour lui, je vous pose la question, le fait de s'islamiser, même avec cette relation un peu complexe et à distance, ce n'était pas tant une conversion qu'un aboutissement. Dans la partie soufie de la tradition religieuse islamique dont il disait que c'était sa moelle ou sa quintessence. Et la seconde chose aussi, c'était pas une nécessité absolue de changer de nom, d'avoir un nouveau nom, mais lui, il en a choisi un, c'était Aïssa Noureddin. Et à la fin de sa vie, il a fondé la confrérie Mariamia, parce qu'il avait une passion pour Marie.
Oui, alors c'est pas à la fin de sa vie, en fait, c'est dès les années 30, en fait.
Ah oui ?
Oui, oui, absolument. Donc ce n'est pas à la fin de sa vie, non. Mais vous avez raison, c'était d'une certaine façon un aboutissement, parce que le soufisme, effectivement, a une dimension universelle, historiquement. On peut penser à Rumi, mais même à Halaj, et à bien d'autres, Ibn Arabi, bien sûr, et même Chavistari, et d'autres.
Eruz Behan
Bakli, exactement. Et donc, c'était un aboutissement en un sens. En un autre sens, c'était d'une certaine façon marcher dans les pas de René Guénon aussi, hein, sous ce rapport-là, puisque Guénon était entré dans l'islam au Caire. Et ils voyaient tous deux, d'ailleurs Guénon comme Chuon, l'islam comme une sorte de pont entre le monde de la Bible et le monde des Upanishads, hein, le monde du monothéisme et le monde de l'Inde non-dualiste. Donc l'islam, et plus particulièrement la quintessence de l'islam, qui était pour Chuon le soufisme, ce qu'il appelait d'ailleurs le soufisme quintessentiel, pas n'importe quel soufisme hein, en un sens, mais le soufisme métaphysique centré sur l'unicité divine et sur l'essentiel de la pratique religieuse qu'il considérait être, comme les grands soufis, le souvenir de Dieu, le Vikrullah. D'une certaine façon, c'est la quintessence de tout l'islam opératif pour lui.
Avec ces quatre points fondamentaux que sont la réalité ou le vrai, la réalité ultime, le cœur, la mémoration, le souvenir et la pauvreté spirituelle.
Oui, c'est une quaternité qui résume tout d'une certaine façon. Et qui résume d'ailleurs la sainteté en islam et dans le soufisme.
Vous avez évoqué René Guénon. Pour revenir à notre sujet qui est l'eschatologie, ce sont ses fins dernières. Lui, il s'en distingue un peu de la vision de René Guénon de ces choses-là. Il n'est pas dans une critique du monde moderne. Il veut simplement alerter, si j'ai bien compris, l'aspirant ou le cheminant ou celui qui est sur la voie spirituelle quant aux embûches de la vie matérielle que nous connaissons maintenant.
Oui, alors on pourrait dire que Chuon ne s'intéresse pas principalement à l'eschatologie. Il s'intéresse, comme j'ai dit, à la métaphysique et en conséquence à tout ce qui relève principalement de la métaphysique, c'est-à-dire la cosmologie et donc l'eschatologie. Mais effectivement, l'eschatologie n'est pas au centre de son œuvre. Cependant, il y a, et de même, il n'y a pas, comme chez Guénon, une concentration sur la critique du monde moderne. Mais il y a de nombreux passages de son œuvre néanmoins qui incluent des analyses extrêmement critiques de certains aspects de la modernité. Hein. Et comme vous le disiez, d'une certaine façon, c'est une façon d'aider les chercheurs spirituels hein, qui rencontrent des difficultés particulières dans le monde moderne, parce que le monde moderne, pour lui, pour Chuon, comme pour Guénon, c'est la première civilisation qui n'est pas fondée sur des principes métaphysiques. Et qui, au contraire, en fait, les nie ou les ignore, n'est-ce pas ? Donc il est très important pour Chuon d'avoir une conscience très claire de la nature du monde moderne, comme pour Guénon, et des erreurs modernes. Et ces erreurs, elles se manifestent non seulement dans le domaine métaphysique, mais dans le domaine esthétique, dans le domaine moral, dans le domaine politique, dans tous les domaines, d'une certaine façon. La critique du monde moderne, elle n'est pas centrale dans l'œuvre sur le plan quantitatif, si j'ose dire, mais elle est centrale au sens où elle est une nécessité, d'une certaine façon, pour être à même de fonder une vie spirituelle solide, enracinée, qui puisse résister à tout ce qui, dans le monde moderne, met en difficulté le chercheur spirituel.
Quand il parle du principe, avec grand P, à quoi cela renvoie-t-il? À l'essence divine, à la lumière dite incréée, à l'absolu, avec grand A?
Alors, principe, manifestation, il reprend, de ce point de vue-là, la terminologie de René Guénon, mais il se réfère essentiellement à l'absolu, c'est-à-dire à la réalité qui ne peut pas ne pas être, hein, alors que toute autre réalité peut ne pas être. C'est la réalité relative. Il se réfère aussi parfois dans son œuvre à ce qu'il désigne comme le sur-être. Le sur-être, c'est ce que Guénon désignait comme le non-être, non pas au sens d'une absence d'être, bien sûr, mais au sens d'une réalité qui va même par-delà la dualité ou la polarité de l'être et du non-être. Il compare, par exemple, dans une poésie, le sur-être à l'espace, qui inclut tout. Et l'être, qui sera par contraste l'être divin, sera comparé dans une poésie au soleil, qui est principe de vie et principe de lumière. Et puis il y aura par exemple la lune qui reflètera le soleil, la lumière du soleil, et qui sera l'existence, c'est-à-dire Dieu en tant qu'il se manifeste, c'est-à-dire Dieu en tant qu'il est Zahir, le manifeste, l'extérieur, etc. Donc il y a trois niveaux dans son œuvre, il y a trois degrés métaphysiques, le sur-être, qui est comme l'espace, qui inclut tout, qui est la toute réalité, qui est la toute possibilité, l'être, qui est l'être divin, créateur, personnel, avec lequel l'humanité est en rapport, par les révélations, par la prière, etc. Ça, c'est comme le soleil. Et puis, la lune, ce serait le reflet de la lumière divine dans l'existence, puisque l'existence, pour Chuan, comme toute la tradition de la Wahdat al-Wujud, de l'unicité de l'existence, rien n'est indépendamment du principe ou de la réalité divine.
J'ai lu cette expression qui parle des arêtes de l'existence. Alors, que sont-elles, ces arêtes de l'existence?
Oui, Chuan utilise ce terme d'arête qui est intéressant parce qu'il suggère d'une part les limitations, mais aussi les limitations douloureuses de l'existence. Tout ce qui relève de la mort, par exemple, de la rigueur divine, de la justice, ça peut être dans l'univers naturel, les catastrophes naturelles, les séismes, etc. Donc, c'est ce qui relève de Maya. Hein. Il aime à se référer aux catégories hindoues Atman, Maya. Atman, c'est l'absolu transpersonnel qui est l'essence de tout, qui est le sujet universel, qui est ce que en islam on appellerait le je divin, si je peux dire, je, hein, j'entends. Et d'autre part, Maya, qui est tout ce qui n'est pas l'absolu. Et évidemment, dans la tradition hindoue, cela inclut même le Dieu personnel, puisque le Dieu personnel est en relation avec la création et donc n'est pas absolument absolu. Dès qu'il y a une relation, il y a relativité. Et c'est ce que Chuan appelle le relativement absolu, ce qui est une expression évidemment hautement paradoxale, mais nécessaire.
Ou oxymorique, mais...
Oui, apparemment en tout cas.
Il y a aussi cette notion de vie, je crois, ou de temps spiroïdal, donc on est sous forme de spire, sans vouloir pinailler de ma part, quel serait le pas de cette spire ou de cette approche hélicoïdale, et c'est pour aller vers où? Si on est en vie, c'est pour arriver à une fin, parce que la vie n'est qu'une Pâque ou une aventure terrestre.
Ben évidemment, pour Chuan, comme pour tous les grands sages, les grands gnostiques de la Sophia Perennis, la fin, c'est le commencement. Et la fin, c'est ce qui est. La fin n'est autre que le commencement, qui est ce qui est et ne peut pas ne pas être. Donc c'est ce que les Advaitins, les hindous de la non-dualité appelleraient le Paramatman, encore une fois, le suprême sujet, la suprême ipséité, la suprême identité dont parlait Guénon, etc. Donc ça c'est la fin ultime. Mais bien sûr, pour les personnes, pour l'individualité elle-même, il y a évidemment aussi les états les états célestes, les états paradisiaques, qui sont des états de proximité par rapport au principe, par rapport à la réalité divine elle-même. Alors Schuon met chaque chose à sa place, si j'ose dire. Il y a en nous quelque chose qui nous dépasse infiniment, c'est le divin transpersonnel, c'est ce nous divin qui dit dans le Coran « Je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire », mais il y a aussi une personne humaine, dans sa particularité, créée, donc voulue par Dieu, et qui est en relation particulière avec Dieu. Chaque homme, chaque femme est en relation particulière avec Dieu. Et ça, c'est une autre dimension, c'est un autre degré de la réalité. Donc pour Schuon, la sainteté, c'est une sorte de réintégration de la personne humaine dans sa racine, dans son archétype, en Dieu. Et c'est ça la sainteté, fondamentalement. Et donc nous sommes tous en route, en quelque sorte, vers nous-mêmes, ou vers cette racine de nous-mêmes. Mais évidemment, il y a des détours beaucoup plus longs que d'autres, et il y a des voies plus droites que d'autres. Mais en définitive, c'est cela, être humain pour Schuon.
Et parler de l'absolu, du principe, de ce qui ne peut pas ne pas être, c'est aussi un terme qui frappe l'entendement humain, puisque cet absolu est premier et dernier, dans le temps et hors du temps, manifeste et caché, proche, plus proche que la veine jugulaire, allusion faite à ce verset 16 de la sourate 50, mais loin que les confins de l'univers. C'est que le vocabulaire humain n'arrive pas à en rendre compte, si ce n'est que par approche anthropomorphique.
Ben oui, c'est tout le problème du langage humain. Il est à la fois, il peut être adéquat ou inadéquat, mais il est toujours limité et donc toujours incapable de rendre compte totalement de la réalité divine. Tous les grands mystiques ont été confrontés à ce problème. Mais Schuon tente à mettre l'accent néanmoins sur la capacité positive du concept et de la langue et des mots, parce que ce sont des symboles aussi. Il n'y a pas simplement les symboles naturels, il n'y a pas simplement les symboles artistiques, mais il y a aussi les symboles conceptuels. Un concept métaphysique, c'est une réalité qui permet d'accéder à la réalité elle-même, au-delà du concept. C'est pour cela que Schuon mettait l'accent sur l'importance de la doctrine métaphysique. La spiritualité n'est pas seulement une question d'expérience, mais c'est aussi une question de doctrine, c'est-à-dire qu'il convient d'avoir une vision suffisamment claire et adéquate de la réalité sur le plan mental, sur le plan conceptuel, et que cette doctrine sera la base, le fondement de la voie spirituelle elle-même. Schuon critiquait les formes de spiritualité nouvelle qui font fi ou qui méprisent ou qui rejettent la dimension intellectuelle au nom d'une expérience intime, etc. Non, en fait, la doctrine et la méthode, la théorie et la pratique, si j'ose dire, forme une unité, une sorte de bi-unité qui est nécessaire. Il n'y a pas de vraie métaphysique sans une réalisation, ou sans un effort de réalisation au moins, et il n'y a pas de voie spirituelle sans un fondement doctrinal solide.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons des fins dernières, du temps de la fin. Dans l'œuvre ou la pensée de Fritjof Schuon, avec le professeur Patrick Claude, qui nous donne de son temps. Patrick Claude est professeur à l'université Georgetown et aussi détaché au pôle universitaire de Doha, au Qatar. Et pour cette deuxième partie, parlons aussi, si vous voulez bien, cher Patrick Claude, de cette notion d'apokatastase. Du grec apokatastasis, c'est rétablissement, retour à l'origine, restauration, dans la théologie chrétienne, presque réconciliation. Il y a même cette idée que finalement, quand tout cela se retrouve la réunion et une réconciliation à la fin, que restera-t-il, ne serait-ce que d'une manière imagée, dans l'enfer ? Il n'y aura plus rien. Et pour Fritjof Schuon, c'est important cette notion d'apokatastase ?
Je crois que c'est important parce que l'apokatastase, ça signifie d'abord que tout ce qui est premièrement dans le principe, ou est premièrement en Dieu. Et donc tout ce qui est amené à être réintégré dans sa source. L'apokatastase, ce n'est pas un manque, ce n'est pas une privation. C'est une plénitude d'être. C'est une plénitude infinie d'être. Et donc, ce qui disparaît, ce qui est anéanti, c'est ce qui n'est pas. Tout ce qui est ne peut pas ne pas être. Donc tout ce qui est, pour Schuon, tout ce qui est positif, si vous voulez, dans l'univers terrestre, tout ce qui est vrai, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, ne peut pas disparaître au sens vrai. Bien sûr, cela peut disparaître et cela disparaît dans sa limitation existentielle, mais pas dans son contenu. Dans son contenu essentiel, qui est un contenu divin. La fleur, la rose, ne va durer qu'une journée. Peut-être fanée, mais sa réalité essentielle, ce qu'elle transmet en fait de beauté, en fait de senteur, etc., est enracinée en Dieu, si j'ose dire, et donc ne peut pas disparaître. Donc l'apokatastase, c'est, au sens le plus simple du terme, c'est le retour de toute chose en sa racine en Dieu.
C'est presque une paraphrase à ce passage qui dit « Nous sommes à Dieu et nous y retournerons assurément ».
Exactement, exactement.
Avec cette idée qu'ici, Dieu est l'être nécessaire, per se, par soi-même.
Oui.
Absolument. Vous avez évoqué tout à l'heure l'ipséité, chère à Guénon, mais à d'autres aussi. C'est-à-dire que, en tout cas, de fait, et d'un point de vue purement ontologique, il ne peut pas ne pas y avoir un être premier, une cause première, une origine non mécanique à tous les mécanismes, une force motrice, une intelligence suprême, etc., quels que soient les mots ou les noms que nous pourrions en donner. Est-ce que cela justifie sa critique, si c'est une critique, de la philosophie lorsqu'elle apparaît chez certains philosophes comme se détachant ou ignorant en tout cas la métaphysique comme, pas comme une discipline, mais comme art de vivre, comme une approche à la fois conceptuelle et pratique de vie.
Alors, dans son livre sur le soufisme voit les quintessences, Schuon a consacré un chapitre à une sorte de, si j'ose dire, de réhabilitation de la philosophie. Je veux dire réhabilitation parce que Guénon avait critiqué de façon très sévère la philosophie. Et Schuon essaie de montrer qu'en fait, il y a philosophie et philosophie, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une philosophie, disons la philosophie platonicienne ou néoplatonicienne ou la philosophie antique, qui est véritablement un amour de la sagesse au sens étymologique, et donc qui, d'une part, est fondée sur des principes métaphysiques objectifs, et d'autre part, implique aussi une réalisation spirituelle, ou des méditations, en tout cas un aspect pratique. Et puis il y a la philosophie, disons, post-médiévale, si l'on veut, en Occident en tout cas, qui, elle, d'une certaine façon, est une misosophie. C'est-à-dire qu'elle elle rejette, d'une certaine façon, la sagesse antique.
Donc, miso de mise, de rejet,
détestation de la sagesse. Donc, encore une fois, il y a philosophie et philosophie, mais au sens le plus profond du terme, la philosophie, ce n'est autre que la gnose, d'une certaine façon. En tout cas, la sophie, si j'ose dire, c'est la gnose. Et la philosophie, c'est ce qui mène à la gnose. Donc, il n'y a pas de rejet a priori de la philosophie, mais il y a un rejet de la philosophie moderne, ou disons, de la philosophie post-médiévale en Occident. Et pourquoi ? Eh bien, parce que la différence entre la philosophie traditionnelle, disons, et la philosophie post-traditionnelle, si je puis dire, c'est que la première est fondée dans l'intellect, est fondée dans l'intelligence divine en nous. On le voit chez Platon, c'est très net, il y a le nous. Dans la République, l'organe de connaissance le plus élevé, c'est l'organe noétique, le nous, ce n'est pas la dianoïa, ce n'est pas la raison, et c'est encore moins, évidemment, les sens. Alors que la philosophie post-médiévale est essentiellement soit rationaliste, soit infrarationaliste, mais pas intellective au sens où l'entend Schuon.
Ai-je bien compris ou est-ce une sorte de spéculation de ma part ? Il y a une critique de Kant et de Comte concernant cette philosophie qui, pour lui, aurait laissé de côté, allez, je suis prudent avec le conditionnel, où l'on n'a pas appliqué suffisamment le discernement à l'égard de certains phénomènes cosmiques en ayant mis de côté les principes métaphysiques.
Oui, c'est-à-dire que chez Kant, d'une certaine façon, on limite l'intelligence humaine à la raison et d'une façon unilatérale, on exclut la possibilité d'une connaissance qui serait suprarationnelle, au sens platonicien du terme. Et chez Comte, eh bien, on descend dans cette vision évolutive de l'intelligence humaine depuis les ténèbres des temps théologiques jusqu'à la lumière du positivisme scientiste. Et ça, c'est alors que pour Schuon et pour les penseurs traditionnels en général, c'est l'inverse qui est vrai. En fait, il s'agit non pas d'une évolution, mais d'une déchéance à proprement parler, une déchéance intellective ou intellectuelle.
C'est-à-dire que c'est ce qui nous rapprocherait ou qui nous rapproche de l'origine, qui donne lieu à une forme de perfection.
Exactement, puisque l'origine, c'est la lumière, c'est la source de lumière, c'est la source d'être. Et cette origine, elle n'est pas seulement temporelle, mais elle est ontologique, elle est métaphysique, elle est toujours présente. L'origine est toujours présente, elle est toujours la source d'être.
Mais pour Fritjof Schuon, ce n'est pas tant une critique des bienfaits de la science dite exacte, pure, moderne, dure, et avec ses applications technologiques, que le fait de s'être détaché de ses principes métaphysiques et quelques méfaits, pour ne pas dire certains ou même plusieurs méfaits de l'application technologique.
Oui, bien sûr, il ne s'agit pas d'un obscurantisme, d'un rejet de la science, bien évidemment. Et il s'agit simplement d'un rejet du scientisme, c'est-à-dire précisément de limitation, le fait de limiter le savoir, la connaissance humaine, à l'approche scientifique des phénomènes naturels. Voilà, c'est cela. Et donc, une science qui serait connectée, qui serait liée à la métaphysique, comme par exemple dans le monde islamique classique, c'est une science évidemment qui a sa validité. Qui a sa validité et qui a aussi son utilité.
Et l'approche schuonienne sur l'aspect cyclique, c'est ce qui donne autant quelques limites, puisque nous parlons de la fin des temps, puisque ce n'est pas véritablement, vous nous l'avez dit, un penseur de l'eschatologie, puisque ça ne l'intéresse pas en tant que tel, mais il y a quelques repères ou quelques bornes dans le temps qui donnent cet aspect cyclique à l'existence.
Oui, parce que l'existence, c'est la descente de l'absolu dans le relatif, si j'ose dire, et de l'infini dans le fini, et donc l'infini doit pouvoir se contempler en quelque sorte dans une indéfinité de cycles. Quand l'infini rencontre le fini, le fini est allongé en quelque sorte indéfiniment. Donc, c'est une théorie cyclique. Xuan s'intéresse à la vision cyclique de l'hindouisme, par exemple, ou du bouddhisme également. Et il la place en contraste, dans certaines parties de son œuvre, avec la vision monothéiste, qui est une vision qui se limite d'une certaine façon à un cycle de révélation, par exemple dans les traditions abrahamiques, il est évident qu'il y a un cycle de révélation. Et à l'intérieur de ce cycle, il y a aussi d'autres cycles, puisqu'il y a le christianisme, il y a l'islam, mais c'est une vision tout à fait différente de la vision cyclique du bouddhisme et de l'hindouisme. Et pour Xuan, et ça peut peut-être surprendre certains de ses lecteurs, la perspective hindoue et la perspective bouddhiste sont plus tout embrassantes, sont plus inclusives, et donc sont plus vraies, entre guillemets, en ce sens qu'elles rendent compte de la réalité d'une façon plus complète.
Est-ce une approche universelle ou syncrétique un peu à la manière de ce qui a pu se faire en seconde moitié du XXe siècle ?
Syncrétique, je dis non. Comme Guénon avait rejeté le terme syncrétisme, déjà en le mettant en contraste avec la synthèse. Alors chez Xuan, c'est une synthèse métaphysique et spirituelle. Si par syncrétisme, on entend l'usage de divers éléments qui sont empruntés à diverses religions de façon plus ou moins artificielle et de façon de plus ou moins arbitraire, ce n'est certainement pas du syncrétisme. On ne mélange pas les choses, mais c'est une synthèse en ce sens que c'est une capacité à saisir ce qui est central, ce qui est essentiel dans chacune des traditions spirituelles. Bon, vous savez, Xuan a utilisé ce symbole très simple et très, très transparent, si j'ose dire, de la lumière et des couleurs. Hein. Il y a la lumière qui est la vérité toute pure, et puis il y a les couleurs qui sont les diverses manifestations confessionnelles, religieuses de cette lumière. Et on voit très bien à travers cette image qu'il s'agit d'une synthèse. La lumière, d'une certaine façon, est la synthèse des couleurs. Et il ne s'agit pas de mélanger les couleurs, il ne s'agit pas de faire du bleu du rouge ou de prétendre que le vert est jaune.
C'est-à-dire, contrairement à ce que certains ont essayé de faire, de prendre un peu de Zohar ou de Kabbale, un peu de soufisme, un peu de un zeste de bouddhisme zazen et un peu de désicasme byzantin et que sais-je encore, lui, c'est la quintessence qui se reflète ou cette lumière qui est diffractée. Alors, on peut poser la question sur le prisme diffracteur.
C'est cela. Alors, le premier ouvrage de Guénon, de Xuan, pardon, en français, il avait écrit déjà un livre en 1935, je crois, qui s'intitulait Leitgedanken zur Urbesinnung, Méditation primordiale. Mais son premier livre en français, c'est 1900. C'est après la guerre, c'est 46 ou 48, je ne sais plus, c'est de l'unité transcendante des religions. Et dans ce titre, on perçoit déjà qu'il y a l'unité, certes, mais que cette unité est transcendante aux religions. Donc il ne s'agit pas de dire que les religions sont une, elles sont plurielles, elles sont diverses. Alors, vous parliez du prisme, bien le prisme, c'est essentiellement l'intellect. C'est l'intellect. Et la diversification, en quelque sorte, à travers l'intellect, cette diversification formelle, qui est pour Xuan, elle est appelée, elle est nécessitée par la diversité humaine. C'est-à-dire que chaque civilisation, chaque culture, chaque période historique a des besoins différents. Et donc, l'infinité divine se manifeste de façon particulière pour chaque collectivité. C'est d'ailleurs, d'une certaine façon, la vision islamique, orthodoxe. Chaque nation, chaque tribu a reçu son prophète. Donc, c'est d'une certaine façon, c'est une interprétation, c'est une méditation ésotérique sur ce qui est inhérent à la vision islamique, dans ce cas.
À chacun d'entre vous, nous avons donné une voie et une loi. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté.
Mais il a voulu vous éprouver justement dans l'émulation vers le bien et vers la vérité.
Par le don qu'il vous a fait, cherchez à vous surpasser les uns les autres dans les bonnes actions. Un jour, vous retournerez à Dieu, alors il vous éclairera au sujet de vos différences. Le fameux verset 48 de la sourate 5, qui finalement, lui, l'a compris comme il y a quelque chose qui transcende, qui dépasse toutes ces religions, et puis elle se reflète, et chacune d'elles a sa validité propre.
Sa validité propre, et aussi ses limitations propres. Chuan, parmi tous les écrivains traditionalistes ou pérennialistes, est celui, sans aucun doute, qui met le plus l'accent sur les limitations des religions et des confessions. Il met d'abord l'accent, bien sûr, sur leur efficacité, sur leur origine divine et donc sur leur efficacité, mais il analyse souvent aussi leurs limitations. Est-ce que leur limitation peut avoir parfois de décevant ou de désorientant, sur un plan relatif, évidemment.
Son attrait pour l'islam s'est-il fait par la lecture, notamment la lecture d'Ibn Arabi, ou parce qu'il y a eu aussi ce contact et ce voyage en Algérie, à Mostaganem, pour rencontrer le cheikh Alaoui?
Alors, l'attrait pour l'islam, c'est la recherche d'une initiation, au sens guénonien du terme. Il n'a pas trouvé cette initiation dans le monde chrétien. Il considérait qu'on ne peut pas devenir hindou, il faut être né hindou, dans une caste. Et donc, il ne restait plus, d'une certaine façon, que l'islam et le soufisme comme possibilité. Et le destin l'a amené en Algérie, et rencontrer ce très grand saint, ce très grand gnostique qui était le cheikh Ahmed Al-Alaoui, qui, d'une certaine façon, déjà préfiguré par certaines de ses caractéristiques, le message de Chuan. Il y avait déjà chez le cheikh Al-Alaoui, comme l'a montré Martin Links dans son très beau livre sur le cheikh Al-Alaoui, un saint musulman du XXe siècle. Il a montré, par exemple, comment le cheikh Al-Alaoui mettait l'accent sur la centralité de la mémoration, de la remémoration du souvenir de Dieu, puisqu'il considérait que toutes les pratiques de la religion, tous les aspects en fait de la religion n'avaient qu'une seule finalité, qui est le souvenir de Dieu, précisément.
Y compris lors de sa rencontre avec les Amérindiens, peut-être avec Illotel ou,
absolument.
Ou d'autres chefs Sioux.
Alors ça, c'était la dimension primordiale. Ce qui attirait Chuan chez les Indiens d'Amérique, c'est précisément cette religion de la nature, si on peut dire. Non pas la religion du livre, ça, ce sont les traditions abrahamiques, mais la religion du livre naturel, la religion du cosmos, qui, pour lui, reflétait directement les qualités divines. D'où son attrait pour la nature vierge et le chamanisme amérindien. Et il a été adopté dans deux tribus indiennes, chez les Lakota, les Crocs et les Crocs, les Indiens corbeaux.
Alors, et cette notion d'âge de fer? Alors, d'aucuns disent maintenant que ce n'est pas tant l'âge de fer que l'âge du plastique. Mais pour lui, c'est quelque chose de fondamental, le fait d'en parler et d'attirer notre attention.
Oui, d'attirer notre attention, mais je ne crois pas qu'il y avait chez Chuan du tout une volonté de dire « Ah voilà, nous sommes à 2 jours, à 2 mois, à 2 ans, à 20 ans de la fin du monde ». Il n'y a pas cela. Il y a une conscience très, très aiguë du fait que nous sommes dans une période d'obscurité, de ténèbres, en ce sens que la métaphysique, la spiritualité sont à l'arrière-plan, pour dire le moins. Et d'une certaine façon aussi que cette situation a des bienfaits, a des aspects positifs. Il y a une urgence, voilà. Dans le monde moderne, du fait de l'obscuration moderne, il y a une urgence spirituelle. Et donc, il convient de s'en rendre compte. Et cette urgence, en fait, elle peut avoir des bénéfices. Elle peut précisément nous contraindre à une plus grande rigueur, à une plus grande conscience de la nécessité de l'absolu.
Yeah.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons des fins dernières, du temps de la fin, de l'eschatologie, particulièrement dans les écrits de Fritjof Schuon, grand métaphysicien, maître spirituel, un penseur aussi de la tradition, avec le professeur Patrick Claude, professeur d'études religieuses à l'université de Georgetown, depuis maintenant 34 ans.
Oui, vous comptez bien.
C'est que vous avez commencé tôt à enseigner ces études philosophiques et vous êtes détaché depuis maintenant 19 ans au pôle universitaire de Doha au Qatar. Et pour cette dernière partie, cher Patrick Claude, parlons un peu de cette idée que dont apocalyptique, ou en tout cas elle parle de l'escaton, de ces fins dernières, en tout cas dans la tradition religieuse islamique, on rapporte que la révélation coranique avait aussi, entre autres, comme fonction et comme enseignement de préparer le peuple récipiendaire d'alors à une forme de fin des temps.
Oui.
Et on dit qu'il y a un aphorisme du prophète qui a comparé le temps écoulé à ses deux doigts, l'index et le majeur, et que ce qui restait comme temps, c'était le fait de rattraper, si j'ose dire, la longueur de l'index pour être comme celle du majeur. Pour Fritjof Schuon, ce n'est pas tant cela que vivre en conscience et en se rattachant ou en s'arrimant à la réalité ultime dans une approche spirituelle et de ne pas laisser trop à la matérialité des choses d'obscurcir un peu la vision des êtres humains.
Oui, parce que pour Schuon, l'eschatologie réelle, il y a d'ailleurs une certaine analogie entre sa vision et celle de l'islam sous ce rapport-là, parce que il se réfère à la primordialité, comme l'islam. L'islam se considère comme la restauration de la religion primordiale, et Schuon met l'accent sur cette primordialité. Se référer à la primordialité, c'est aussi se référer, indirectement en tout cas, au fait que cette primordialité a été perdue. Et donc, il s'agit de la recouvrer. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, Schuon s'intéresse plus à la métaphysique, comme je l'ai dit, qu'à la cosmologie, à l'eschatologie. Il n'envisage en fait l'eschatologie que par rapport à la métaphysique, c'est-à-dire que la fin des temps, qu'est-ce que c'est que la fin des temps? La fin des temps, ce n'est rien d'autre que la manifestation du fait que le relatif n'est pas l'absolu. C'est une des manifestations du fait que le relatif n'est pas l'absolu. Donc, si la métaphysique est contemplée comme un discernement entre l'absolu et le relatif, l'eschatologie, c'est rien d'autre qu'une manifestation de cette distinction entre l'absolu et le relatif. Le relatif doit déchoir, doit disparaître, doit être résorbé, parce qu'il n'est pas l'absolu, parce qu'il n'est pas totalement réel. Le Coran dit « tout périt » ou « tout périra », selon la traduction, sauf la face de Dieu.
Tout est périssable, tout ce qui y vit, le Y est un adverbe de lieu renvoyant à la terre, tout ce qui y vit est périssable et ne subsistera ou ne restera que la face de ton Seigneur, Seigneur de majesté et de munificence. Dans la suite, ce sont les versets de la sourate 55, la sourate dite du miséricordieux. Dans sa critique, disons, le mot critique ici est au sens académique, Fritjof Schuon parle de la civilisation quand elle est intégrale, englobante, saine, spirituelle, c'est une civilisation humaine valide et saine, mais quand elle est fragmentaire, uniquement matérialiste, mercantile ou mercantiliste, c'est là où elle va vers sa propre déchéance.
Oui, et en un certain sens, elle n'est pas une vraie civilisation. Elle n'est pas une authentique civilisation puisqu'elle n'est pas fondée précisément sur des principes métaphysiques. Alors d'ailleurs, Schuon critique ce qu'il appelle le civilisationnisme, c'est-à-dire l'idée que la civilisation occidentale post-Renaissance aurait une sorte de supériorité intrinsèque par rapport à toute autre civilisation, et donc il s'agit de de répandre cette civilisation. Et il accuse, du reste, une partie du christianisme, de l'Église catholique en particulier, d'avoir épousé, malheureusement parfois, cette perspective civilisationniste.
Peut-être quelques mots encore sur à la fois la sagesse, la religion primordiale ou pérenne, parce que pour lui, c'est quasi, si j'ai bien compris, peut-être même ai-je mal compris, c'est interchangeable. La sagesse primordiale et la religion primordiale.
Oui, c'est pratiquement interchangeable. Il y a une petite différence d'accent néanmoins. Je crois que quand il s'agit de la Sophia, il s'agit évidemment de la gnose. Hein. Et quand il s'agit de la religion, il s'agit plutôt à la fois de la métaphysique et de la pratique, c'est-à-dire avec ses rites, par exemple. Voilà. Et puis l'accent est davantage évidemment sur le lien avec le divin, puisqu'il s'agit de religion. Religio perennis, religion pérenne, pour Schuon, c'est tout simplement le contenu essentiel de toutes les religions authentiques. Voilà. Et la Sophia perennis, eh bien, c'est la réalisation, le sommet, le couronnement, d'une certaine façon, de toute religion.
Alors, nous n'avons pas parlé davantage, en tout cas, c'est moi qui ne vous ai pas posé davantage la question sur donc cet âge de fer emprunté au Kali Yuga et qui vient après, parlons aussi de l'âge sombre. Cela sous-entend qu'on doit aller vers, peut-être pas de notre propre vie, mais l'humanité vers un âge de lumière.
Oui, mais alors pour Schuon comme pour Guénon, je crois, cet âge de lumière doit faire suite à une fin, au sens négatif du terme. Et bien sûr, il y a la question du passage entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les ténèbres et puis il y a la lumière. Et ce ne sont jamais les ténèbres intégrales, sans quoi ce serait la fin de toute façon. Donc, même au milieu des ténèbres, il doit demeurer quelques lumières. Ne serait-ce que des lumières très faibles qui préfigurent ce qui viendra. Donc, quand on considère l'âge de fer, par exemple, on met l'accent, bien sûr, sur l'aspect de ténèbres, sur la négation de la transcendance, sur le désordre dans tous les domaines, le chaos, etc. Mais aussi sur certains aspects de préparation de ce qui va venir, une sorte de barzar, une sorte d'isme vers ce qui va venir. Comment dire en islam, et Dieu est plus savant.
Tout à l'heure, en parlant de l'apocatastase, avec cette notion de réparation, restauration, réconciliation, retour, rétablissement, il n'y a pas un parallèle à établir avec le Tikkun HaOlam, la réparation du monde dans la sagesse judaïque?
En un sens, oui, mais je crois que dans la tradition kabbaliste, en tout cas, cette réparation, ce Tikkun HaOlam, c'est finalement la responsabilité de l'homme, n'est-ce pas? Alors, de ce point de vue-là, cette réparation, c'est une œuvre, c'est une voie. C'est la voie judaïque, d'une certaine façon. Il s'agit de rassembler ces étincelles de lumière, en quelque sorte, qui ont été mélangées avec la relativité au sens négatif du terme, avec les échardes, on parlait des arêtes de l'existence. Alors que l'apokatastase, c'est plutôt une réintégration du divin. C'est plutôt le divin qui a l'initiative, si j'ose dire. C'est comme ramener toute chose à sa source. Donc, de ce point de vue-là, je verrais une différence. Même si, dans les deux cas, effectivement, il y a un aspect de réintégration.
Et en attendant le fameux, puisqu'il en parle, Messie universel.
Oui, alors le Messie universel, toute la question, évidemment, c'est lié à la question du Logos, puisque toute chose se manifeste par le Logos, et d'une certaine façon aussi doit être réintégrée par le Logos, qui est la porte d'entrée, mais aussi la porte de sortie, si j'ose dire.
Quand on a parlé de Sophia et de Religio Perennis, la sagesse primordiale, pérenne, est plutôt la gnose, alors que la religion, c'est à la fois pratique et dans ses dimensions rituelles. Pour lui, il y a aussi le respect de l'orthodoxie ou pas, puisque vous m'aviez dit qu'il y a, et ça je l'ai lu aussi, deux formes d'approche soufi le concernant. Il y a le soufisme ésotérique,
oui,
et quintessentiel, mm-hmm. Et puis un autre que certains aspirants à cette voie s'y attachent alors qu'elle n'est pas encore profonde.
Oui, alors là, je crois qu'il s'agit de deux concepts très importants dans l'œuvre de Schuon. Quand vous parlez de religion et quand vous parlez de gnose, d'une certaine façon, vous parlez aussi d'exotérisme et d'ésotérisme. Ce sont deux termes qui reviennent très souvent sous sa plume. L'exotérisme, c'est plutôt la dimension formelle de toute religion. Et puis l'ésotérisme, c'est la moelle spirituelle, c'est la moelle métaphysique que toute religion contient en quelque sorte, et qui est l'essence de toute religion. Donc, suivant les cas, on mettra plus ou moins l'accent sur l'exotérique ou sur l'ésotérique. Mais pour Schuon, l'exotérique est toujours nécessaire comme une sorte de complément, comme une sorte de forme protectrice, mais aussi comme une forme de bénédiction, d'effluve divine. En d'autres termes, il n'y a pas de voie spirituelle pour lui sans révélation, sans origine divine et donc sans tradition, y compris la tradition exotérique. Évidemment, l'exotérisme a ses limitations et l'exotérisme peut devenir aussi un voile qui empêche d'avoir accès à cette moelle dont il s'agit. C'était déjà le point de vue de bien des soufis, hein, même Razali, dans un de ses ouvrages, c'est dans l'ouvrage L'alchimie du bonheur, hein, Camille Sarad, dit la même chose. Il dit que le principal obstacle à la connaissance, c'est précisément l'exclusivisme exotérique.
Nous approchons du terme de l'émission, cher Patrick Claude. Peut-être encore un mot. J'aurais dû vous poser la question en parlant du Kali Yuga. C'est lorsqu'il parle du Treta Yuga, c'est-à-dire cette fois-ci, c'est l'âge d'argent. Alors, quelle différence y a-t-il entre l'âge de fer et l'âge d'argent ? Argent, le métal, argent.
Il y a quatre âges. Mais en fait, Schuon se réfère plutôt à l'âge d'or qu'à l'âge d'argent.
Et au premier âge, c'est celui qui est proche de l'origine.
C'est cela. Donc on a ici une sorte de déperdition, d'éloignement progressif. Je ne crois pas que Schuon entre dans les détails, si vous voulez, de ces aspects, mais on a, à travers ces quatre âges fondamentaux, on a une descente progressive, on a un éloignement progressif d'avec l'origine, on a des ténèbres de plus en plus grandissantes. Schuon aime se référer à l'âge d'or parce que c'est l'âge de la proximité, c'est l'âge de l'unité, c'est l'âge de la primordialité, et donc c'est l'âge qu'il s'agit de restaurer d'une certaine façon en soi-même, pour autant que ce soit possible. Et cet âge d'or, c'est d'une certaine façon l'expression eschatologique, si j'ose dire, de l'unicité divine, et donc ce qui constitue l'essence même de la métaphysique. Et chaque âge consacre une descente progressive, une division progressive, une limitation progressive, une déperdition d'énergie spirituelle, si j'ose dire, progressive. Mais ce qui compte avant tout, je crois, pour Schuon, c'est d'être à même de retrouver en soi-même l'âge d'or, si j'ose dire. Non pas que l'homme moderne puisse devenir, en tant que tel, un homme de l'âge d'or, mais je veux dire par là qu'il s'agit de retrouver ce qui est l'essence de l'âge d'or, c'est-à-dire la proximité divine, l'union avec le divin.
Merci infiniment. Merci, professeur. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam et nous avons reçu aujourd'hui le professeur Patrick Claude. Je le rappelle que vous êtes professeur d'études religieuses à l'université Georgetown depuis 1991 et vous êtes détaché depuis 2006 au pôle universitaire de Doha au Qatar. Chers amis auditeurs, vous retrouverez l'émission comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster, la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Antoine Vieux-Saint et la réalisation est assumée par Doria Zinine.